Alors, lorsque éclate la guerre d'Espagne, le Parti populaire français est un tout jeune parti puisqu'il est né le 28 juin 1936. Il est le fruit d'une lutte engagée depuis 1934 par Jacques Doriot contre son ancien parti, le Parti communiste. En pleine victoire du Front populaire, le PPF se veut le rendez-vous à Saint-Denis de tous les anticommunistes. Progressivement, ce parti hostile à la Troisième Internationale va devenir un opposant au Front populaire, pardon, en France. Et ce faisant, la guerre d'Espagne est rapidement lue au prisme du rétrécissement hexagonal qu'analysait Pierre Laborie et dont nous avons déjà entendu parler. C'est-à-dire que le discours médiatique sur la guerre d'Espagne répond avant tout à des fonctions et des paradigmes français. On ne peut pas cependant réduire à cela la lecture de la guerre civile par le PPF. En effet, le parti joue un rôle d'intermédiaire entre diverses politiques d'influence, celle de l'Espagne franquiste, mais aussi celle de la France. Parler de l'opinion du PPF sur la guerre d'Espagne amène inévitablement à aborder des débats historiographiques complexes sur la nature et la trajectoire du PPF. Débats sur lesquels nous essaierons d'être le plus succinct possible pour nous concentrer sur la manière dont ces politiques d'influence ont précipité la chute du PPF. Alors, l'annonce d'un pronunciamento en juillet 1936 n'est pas particulièrement bien accueillie par les dirigeants du PPF. Dans le numéro du 25 juillet 1936 de l'Émancipation nationale, l'hebdomadaire du Parti populaire français, Paul Marion, membre du bureau politique, écrit « Ici, nous n'aimons pas les généreux factieux qui contestent les droits du pouvoir civil et prétendent mêler l'armée aux discordes intérieures. En effet, on imagine aisément qu'un soulèvement militaire ne soit pas instinctivement sympathique à Jacques Doriot, qui gardait des convictions pacifistes et antimilitaristes d'anciens combattants de la Première Guerre, lui qui avait appelé dans sa jeunesse les soldats français à déserter et désobéir lors de l'occupation de la Roure en 1923, lui qui avait aussi, le 11 septembre 1924, envoyé un télégramme de félicitations à Abdelkrim pour ses succès contre les armées de Primo de Rivera. Mais la République espagnole du Frente Popular ne lui est pas sympathique non plus, car elle est chargée d'un grave péché originel, son association au communisme. C'est là que se trouve pour lui l'explication de la rébellion, car le pillage des églises, les incendies de monuments publics, les expéditions punitives, les assassinats politiques qui se sont inscrits au compte des extrémistes du Front populaire devaient nécessairement lasser une partie de la population républicaine et révolter le reste de l'Espagne. Il prend a posteriori parti pour Indalecio Prieto contre l'Argo Caballero et lui donne raison d'avoir mis en garde le Front populaire contre les excès et surtout de vouloir séparer le socialisme espagnol et le Front populaire du communisme moscoutaire qui, comme partout, est générateur de troubles sociaux et cherche à pousser dans la voie soviétique les formations démocratiques. Il déclare néanmoins que le seul rôle qu'un Français peut avoir dans cette douloureuse affaire, c'est de tout faire pour que cesse cette guerre meurtrière. Jacques Doriot prône donc la neutralité absolue et la non-intervention dans le conflit. Il demande, par sécurité diplomatique pour la France, l'envoi d'un ambassadeur, de chaque côté. Mais cette position de Doriot n'est pas universellement partagée au sein du parti. Un exemple assez révélateur nous est rapporté lors du premier congrès national du parti en novembre 1936. Alors que Doriot monte à la tribune pour présenter les membres du parti qui l'aident dans sa tâche, il en arrive à Claude Poplin qui, dit-il, a eu le courage d'interviewer le général Franco. La salle répond alors spontanément par des vivas, vive Franco. Ce qui irrite visiblement Doriot qui coupe immédiatement en répondant « Nous ne sommes pas en Espagne ». Mais le geste de Poplin honore la France. Le général Franco lui a répondu que la France n'était pas celle de Torres. On voit donc déjà que la position de neutralité du PPF est traversée par des failles. La première, c'est que certains de ses membres éminents sont immédiatement favorables au soulèvement nationaliste, tels que Claude Poplin ou Bertrand Jouvenel. La seconde, c'est que la sociologie militante du parti est très hétéroclite. On y trouve tant des anciens communistes, comme Paul Marion, Henri Barbet, Victor Arrigui et le premier d'entre eux, évidemment Jacques Doriot, que d'anciens croix de feu, comme Claude Poplin, Pierre Pucheux, Yves Paringaud et Robert Lousteau. La plateforme du parti n'est pas encore clairement définie, ce qui complique la tâche de Doriot pour décider d'une ligne politique stable. C'est pourquoi Doriot est contraint de freiner les attentes de certains militants, prompts à soutenir les généraux espagnols, car cela pourrait choquer une autre partie des militants de tradition républicaine, socialiste ou communiste. La position de non-intervention permet aussi au PPF de se situer immédiatement contre le parti communiste, qui lui réclame le soutien au gouvernement espagnol. Pour bien comprendre les enjeux que Doriot associe à la guerre d'Espagne, il convient de s'arrêter sur sa vision du communisme. En tant qu'ancien membre de l'Internationale communiste, Doriot pense toujours le communisme à l'échelle mondiale. Or, pour lui, le Parti communiste est une armée étrangère campée sur notre sol, car ses membres appointés sont de véritables agents de Moscou. En effet, Jacques Doriot pense que la révolution socialiste a échoué en Russie, et que la doctrine stalinienne du communisme dans un seul pays est une façon d'habiller de bolchevisme les appétits impérialistes de l'Union soviétique. Les partis communistes nationaux ne sont donc plus pour Doriot au service de la lutte du prolétariat pour sa libération, mais sont simplement des outils de politique extérieure d'une puissance étrangère. Après son séjour de 4 mois en Chine en 1927, où il assumait une mission de propagande auprès du Kuomintang, il est persuadé que c'est vers l'Asie que Staline tourne ses regards pour le développement futur du communisme. Or, pour pouvoir se tourner librement vers l'Asie, l'Union soviétique a besoin d'assurer sa frontière occidentale et donc de neutraliser l'Allemagne. Après l'échec des soulèvements communistes allemands, c'est à la France que revient le rôle de bouclier soviétique. Une rivalité franco-allemande détournerait en effet l'attention de l'Allemagne sur ce point, la guerre d'Espagne arrive fort à propos car, comme mobilisation antifasciste, elle permet de faire monter les tensions en Europe occidentale et fait ainsi, selon Doriot, le jeu de Staline. Donc c'est ce qu'on le voit dans ce tract distribué à Bordeaux en août 1936, qui insiste particulièrement sur la géostratégie soviétique en déclarant que les armées soviétiques sont plutôt occupées en Chine contre le Japon et ne vont pas chercher à aider la France dans une intervention espagnole. De même qu'il rappelle quand même que l'Union soviétique n'a pas de frontière commune avec l'Allemagne et que la Pologne et la Roumanie se refusent à un passage des forces soviétiques sur leur sol. Où on voit aussi dans ce papillon, un papillon distribué et la même image qui est parue dans l'Émancipation nationale, où on voit donc les dirigeants du Parti communiste français pousser Marianne dans le brasier espagnol sous les encouragements de Staline. Une dimension fondamentale du discours médiatique sur la guerre d'Espagne est de remplir différentes fonctions, donc qu'analysait Pierre Laborie, à savoir une fonction probatoire, une fonction de légitimation et une fonction de miroir ou d'anticipation. Le PPF, à ce titre, n'est guère original, et l'émancipation nationale se couvre d'images morbides et effrayantes qui dénoncent non seulement les horreurs de la guerre civile, comme ici, vous avez donc des populations qui fuient la guerre, et on vous montre aussi donc des traces laissées dans la chaux par les hommes brûlés vifs. Mais plus spécifiquement, attire l'attention des lecteurs aussi sur les dangers du communisme, avec ici, donc, « Sauvez vos femmes et vos enfants, faites taire les voix qui attirent la guerre », avec donc cette photo particulièrement terrible, qui, justement, fait un rappel intéressant avec l'exposé qui me précède. Alors, je n'ai ni la science ni le temps de développer l'histoire de cette photo, mais, donc, vous m'en excuserez. Et la guerre d'Espagne permet donc au PPF de justifier son anticommunisme, de prouver par l'effet de réel des photographies la violence communiste, puisque évidemment cette femme et son bébé sont les victimes du communisme et pas d'autre chose, hein, tel qu'on le présente sur le journal. Et de prévenir la France donc du péril que fait peser sur elle les actions du Parti communiste français. Dans ce jeu de miroir, le PPF se plaît à souligner le rôle des communistes français dans la guerre d'Espagne, tel André Marty, envoyé par le Comintern pour diriger les brigades internationales, que le PPF... c'est pas très clair, mais que le PPF montre ainsi caricaturé en monstre velu repu de chair humaine, en bête simiesque les mains pleines de sang. La simple évocation du nom du boucher d'Albacete, comme on le surnomme, soulève de vives réactions chez les militants PPF, comme au meeting de Wagram de juillet 1938, où le nom de Marty soulève des acclamations telles que « Marty au poteau, à mort, salaud, assassin ». Maurice Thorez fait aussi les frais de la propagande anticommuniste du PPF, où l'on critique, comme ici, son interventionnisme. Thorez s'adresse à une assemblée de squelettes. Plus largement, le PPF fait tout pour s'opposer à l'action et l'influence du Parti communiste, jusqu'à créer, en juillet 1938, une association des miliciens de retour d'Espagne, la MRE, qui s'oppose à l'amicale des anciens volontaires en Espagne républicaine. Les anciens miliciens participent à de nombreux meetings PPF, où ils racontent leur engagement et leur participation à la guerre civile, en dénonçant évidemment les horreurs et en insistant sur la cruauté des communistes, ne ménageant pas la vie de leurs soldats et tuant les ecclésiastiques. On voit donc bien que si Franco dispose depuis le soulèvement de juillet 1936 de soutien au sein du PPF, ceux-ci sont d'ordre personnel et ne doivent pas représenter la ligne du parti. Le PPF ne soutient pas positivement le franquisme, mais poursuit au miroir de l'Espagne sa stratégie d'opposition systématique au communisme. Pourtant, cette position est amenée à évoluer. Du 7 au 20 juillet 1938, Jacques Doriot entreprend avec Claude Poplin un voyage en Espagne nationale, duquel il revient très enthousiaste pour la cause franquiste. Ils se sont rendus donc à Saint-Sébastien, Saragosse, Santander, Burgos, Séville, Valladolid, Bilbao, et ont rencontré de nombreuses personnalités, les généraux Aranda, Garcia Valigno, Queipo de Lano, le légionnaire Milan Astray et bien sûr le général Franco lui-même. Dès son retour, il rencontre de ses très vives impressions aux journalistes parisiens invités à la maison du parti le 21 juillet et aux militants PPF réunis Salvagram le 26 juillet. Doriot a assisté, dit-il, au cours de son voyage, à une véritable renaissance espagnole. Il vante la supériorité militaire de l'Espagne nationaliste, dont la victoire est inéluctable, mais souligne aussi l'importance de l'effort réalisé par le général Franco en matière de progrès social. Il salue donc enfin la révolution profonde qui s'y accomplit et demande l'envoi immédiat d'un ambassadeur à Burgos. Il est caractéristique que Doriot s'aligne sur les principaux thèmes de propagande franquiste. Il démontre par exemple la nécessité de reprendre le dialogue avec l'Espagne pour que puissent reprendre les livraisons de pyrite qui avaient cessé en février 1937, selon la volonté de Franco, pour amener la France à une reconnaissance de facto. De même, se veut-il rassurant concernant l'aide allemande et italienne, plus morale et diplomatique que proprement militaire, et en répétant les mots du général Franco quant à l'ingérence étrangère, « Nous sommes des nationalistes et une atteinte à l'indépendance de notre pays, nous ne l'admettons de personne ». Propos que tout Français passant les Pyrénées peut entendre, comme Philippe Henriot, qui a entendu les mêmes paroles rassurantes lors de son voyage en mars 1937. Les bénéfices que Doriot et plus largement le PPF tirent de ce voyage sont importants. Du 5 août au 8 septembre est publié dans La Liberté le feuilleton du voyage de Popelin et de Doriot en Espagne. Cela permet à Doriot de se mettre en scène comme un homme politique d'envergure internationale. Cela permet aussi de le montrer comme un homme d'action affrontant le péril de la guerre en prenant des photos telles que celle-ci. Donc on le voit marchant dans les ruines de Teruel. Teruel aussi, bataille emblématique de la guerre d'Espagne, que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier le Verdun de la guerre d'Espagne. Et ancien soldat de Verdun, voilà, le lien, tous les chemins mènent à Verdun, le lien est toujours suivi. Cette invitation en Espagne nationale permet aussi de faire retomber une partie du prestige associé à Franco et aux acteurs de la guerre sur Doriot lui-même. Surtout, les retombées de ce voyage sont de nature financière pour le PPF, puisque, selon les rapports des renseignements généraux, Doriot disposerait en septembre 1938 1 000 000 francs pour acheter deux journaux, La Libre Presse d'Alger et Oran Matin. Une partie de cette somme lui aurait été remise par le général Franco. En effet, le PPF était très dynamique dans les départements d'Algérie, dans l'Algérois et en Oranie particulièrement. Jacques Doriot attendait d'y être élu député aux élections de 1940 et y concentrait donc ses efforts de propagande. Son ralliement explicite au général Franco lui a valu diverses élans de sympathie puisque la police note qu'il a reçu de nombreuses subventions à la suite de son voyage, comme M. Lakowski par exemple qui lui verse 250 000 francs, ce qui est une somme tout à fait raisonnable. On peut évidemment se demander quel est le contre-don attendu par Franco à la suite de ce voyage si bénéfique pour Doriot. D'abord, évidemment, un soutien explicite de la part d'un parti relativement puissant au sein des partis nationaux français pour conforter sa position dans l'opinion publique. Ce soutien, Franco l'obtient et de façon enthousiaste. Dès août, paraît dans l'Émancipation nationale un photomontage que j'avais présenté en introduction, surimposant la figure de Francisco Franco sur la carte d'Espagne et portant cette légende, le libérateur de l'Espagne. C'est le seul chef d'État étranger qui bénéficie d'un tel portrait dans l'Émancipation nationale. En fait, Franco n'avait pas besoin du voyage de Doriot en Espagne pour trouver de zélés propagandistes au sein de l'Émancipation nationale. Claude Poplin se chargeait déjà de cette tâche, comme lorsqu'il faisait l'éloge funèbre d'Antonio Primo de Rivera, ou qu'il célébrait l'entrée de l'Espagne nationaliste dans sa deuxième année triomphale dans un article de septembre 1937. Mais le parti prend enfin une position officielle sur l'Espagne nationaliste, et Yves Dautin peut écrire dans le compte-rendu d'un meeting au Valdiv, Poplin abordait un sujet cher au cœur de tous les PPF, celui de l'Espagne nationale. Nous autres, nous n'aimons que cette Espagne-là et nous n'en reconnaissons pas d'autres. En vérité, le voyage du chef du PPF en Espagne nationaliste prendrait sens dans une échelle bien plus fine, celle de la diplomatie européenne. En effet, en avril 1938, Édouard Daladier accède à la présidence du Conseil, ce qui permet à la France de revenir sur l'interdit idéologique que le Front populaire faisait peser sur une discussion avec l'Espagne de Franco, et de prendre contact avec ce nouveau voisin, comme le Royaume-Uni le fait déjà depuis novembre 1937. Le contexte de juillet 1938 est particulièrement favorable à la prise de contact. Les conditions jugées indispensables par Burgos sont respectées, puisque la frontière avec l'Espagne républicaine est fermée en juillet 1938, et la question de l'or espagnol est réglée selon les désirs de Franco. Le ministre des Affaires Georges Bonnet est donc chargé par le président du Conseil de prendre contact avec l'Espagne franquiste, et ce dans le plus grand secret. M. Bonnet prépare donc à envoyer un agent officieux en Espagne, et son choix se porte sur Louis Malvy, député radical socialiste et fervent franquiste. Or, selon les archives du ministère de l'Intérieur italien, qui sont dépouillées par Alessandra Giglioli, Jacques Doriot aurait eu un entretien secret avec le ministre Georges Bonnet, qui lui aurait confié la mission de s'entretenir avec Franco de la possibilité de l'envoi d'une délégation diplomatique. Il n'est pas absurde de penser que Doriot est peut-être un de ces messagers français à Burgos devant préparer la mission de Malvy. d'autant plus utile que s'il est une figure importante des partis nationaux en France, il n'a pas jusqu'alors manifesté d'amitié zélée pour les franquistes. Il est donc peut-être moins suspect de complaisance. D'autant que les thèmes que Doriot rapporte d'Espagne sont non seulement, comme on l'a vu, des éléments de propagande franquiste, mais aussi les quatre conditions françaises à une reconnaissance de l'Espagne nationale, donc à savoir le retour des volontaires allemands et italiens à la fin de la guerre, qu'il n'y ait aucune hypothèque donnée par l'Espagne à une puissance étrangère dans ses territoires, et que l'Espagne soit neutre en cas de guerre, enfin qu'elle livre les pyrites indispensables à la défense nationale. Si Doriot se rend bien en Espagne, la mission de Louis Malvy, elle, échoue cependant parce que la crise de septembre 1938 éloigne de nouveau la France et l'Espagne franquiste. Ce n'est qu'avec l'offensive de Catalogne et la prise de Barcelone que les pourparlers reprennent. Et que finalement la France reconnaît, le 27 février 1939, l'Espagne et nomme le 2 mars le maréchal Pétain comme ambassadeur. Cette nomination est évidemment saluée par Doriot dans La Liberté, qui donne toute sa confiance aux plus glorieux de nos soldats. On voit donc bien comment le PPF se situe à la croisée de différentes politiques d'influence. Celle de l'Espagne nationale qui désire peser positivement sur l'opinion française et surtout accéder à la reconnaissance internationale. Celle de la France aussi qui désire sortir d'une impasse diplomatique alors que la victoire franquiste apparaît de plus en plus certaine et ainsi assurer ses frontières pyrénéennes et marocaines. Si la France et l'Espagne ne semblent pas avoir grandement profité de l'intermédiaire du PPF dans leurs politiques d'influence respectives, le parti, lui, en a très largement bénéficié. Il a gagné de l'argent et une reconnaissance symbolique accrue. Pourtant, les bénéfices que le PPF semble avoir tirés de son soutien à Franco sont superficiels ou du moins éphémères. En janvier 1939, le parti connaît une vague de démissions de la part de ses cadres les plus importants. Ces départs ont des causes de nature cumulative. Tout d'abord, on reproche à Doriot la gestion opaque qui est faite des comptes du parti. En janvier 1939, Bertrand de Jouvenel dit avoir été étonné et offusqué de voir revenir Doriot d'Espagne nationaliste avec des fonds dont il refusait de préciser l'origine et la nature. Dès octobre 1938, Bertrand Jouvenel a dû saisir l'importance des subventions étrangères dans la vie du parti. En effet, de façon concomitante, en octobre 1938, cessent les subventions italiennes, le PPF ayant reçu quelque 7 millions de lire de 1937 à 1938, ainsi que les traitements des rédacteurs du quotidien, donc La Liberté, quotidien du PPF. D'un seul coup apparaît alors l'insuffisance des gains face à l'importance des pertes et la gestion opaque que Doriot avait des finances du parti et de sa presse. Les subventions espagnoles ont donc déclenché une prise de conscience de l'ampleur des dysfonctionnements au sein du PPF. Mais cette affaire ne fait que remplir le vase d'eau que d'autres gouttes viendront faire déborder. En septembre 1938, sont signés les accords de Munich qui sont un premier moment de crise aiguë. Le parti se déchire entre munichois et anti-munichois. Au Conseil national du parti, en octobre 1938, Doriot entend de multiples reproches sur sa gestion de la crise de Munich et plus largement sa gestion du parti. Ce qui va précipiter le dénouement de cette crise, ce sont les revendications italiennes sur la Corse, la Tunisie et Djibouti, fin novembre 1938. Face à des réactions de Doriot jugées trop molles, Paul Marion, Victor Arrigui, Bertrand Jouvenel et Pierre Drieu-La Rochelle présentent leur lettre de démission en janvier 1939. Alors, il nous semble important de nous arrêter un moment sur cette scission, car elle était très commentée dans l'historiographie du PPF. Et bon, ça va faire un peu figure de parenthèse, mais il me semble que c'est quand même important pour comprendre la suite. On attribue à cette crise le rôle d'accélérateur dans le processus de fascisation du PPF. Or, il nous semble qu'elle joue le rôle exactement contraire. Depuis mars 1937 et la création du Front de la Liberté, une alliance électorale anticommuniste, le PPF s'est grandement rapproché des partis de droite, comme le Parti républicain national et social de Pierre Tétinger ou la Fédération républicaine. Sa pratique politique tend effectivement à se fasciser durant cette période. Il adopte par exemple un des rituels particuliers au fascisme qui est l'appel aux morts. Ce rituel est pratiqué dans l'Italie fasciste, dans l'Allemagne nazie et par la phalange espagnole. Or, les introducteurs de cette pratique au PPF sont Victor Arrigui, Bertrand Jouvenel et Paul Marion, qui plaident pour une pratique régulière de l'hommage aux morts du parti et qui sont donc les démissionnaires de janvier 1939. Cette pratique ne parvient pas réellement à s'implanter au sein du PPF et on lui préfère le plus souvent la minute de silence. Or, en janvier 1939, Paul Marion est le premier à remettre sa démission à Jacques Doriot. Sa lettre de démission, conservée aux archives de la préfecture de police, est révélatrice. Il y déclare avoir été déçu par la personnalité de Doriot, par ses choix politiques et sa gestion du parti. Il dit notamment « La mystique, la poésie, l'action héroïque, le caractère religieux d'un mouvement, tout cela te semble creux et haïssable, c'était pourtant mes raisons essentielles de combattre. » Ce reproche de manque de poésie dans le parti avait déjà été souligné lors du Conseil national du parti en octobre 1938. Or, nous savons bien avec Robert Brasillach que poésie est un euphémisme pour fascisme, le fascisme étant la poésie même du XXe siècle. Cette assimilation de l'une à l'autre est implicite, mais fort bien comprise de Doriot, qui répond lors du dit Conseil national. Je ne suis pas d'accord pour dire que notre programme est trop rationaliste, trop intelligent. Nos amis qui s'excitent devant ces exemples de partis parvenus au pouvoir n'en voient que les côtés brillants. Il vaudrait bien mieux étudier comment se sont constitués les premiers noyaux. Personne ne leur a donné le pouvoir, ils l'ont pris par l'action pénible, par un travail des moyens, des personnes, des luttes de partisans. Ils avaient confiance et ils ont organisé d'autres hommes pour faire comme eux. Au lieu de se laisser éblouir par les fastes des partis parvenus, nos camarades feraient bien mieux d'étudier les débuts de ces mouvements. Ils verraient qu'à côté des idées et des programmes, ce qui a été déterminant, ça a été la foi des hommes, parce qu'elle leur a fait accomplir des travaux constructifs. C'est ainsi que la fameuse phrase de Doriot « Ma poésie, c'est l'action », prononcée lors de ce même conseil, n'est pas du tout un aveu de fascisme, comme le dit Jean-Paul Brunet, mais au contraire une fidélité à Marx, qui veut que la philosophie serve à transformer le monde, soit que les idées ne valent que dans leur manifestation concrète, et non pas à entretenir des images simplement esthétiques ou mobilisatrices. En janvier 1939, donc, je referme ma parenthèse, se retirent du parti les membres les plus avancés sur la voie du fascisme. Paul Marion, Bertrand Jouvenel, Victor Arrigui et Pierre Druy-La Rochelle. Il n'y a plus dès lors d'appel aux morts du parti, même plus de minutes de silence. Et on observe donc de nombreux signes de ralliement du PPF à l'extrême droite traditionnaliste française. Jacques Doriot participe pour la première fois personnellement à la fête de Sainte-Jeanne d'Arc en mai 1939, nous avons ici des photos, et il se rend à Lourdes en juin, où il appelle à lutter contre la déchristianisation du pays. Néanmoins, même après donc, cette rupture de janvier, la ligne de fracture sur la question espagnole demeure au sein du parti. En effet, donc, en mai 1939, Doriot envoie des rechefs une délégation PPF en Espagne nationaliste dans l'espoir d'avoir des subventions de la part du général Franco pour le soutenir dans une campagne de propagande au Maroc. Selon les renseignements généraux, il aurait fourni le plan et le programme de son parti à M. Suner, donc beau-frère du général Franco, ministre de l'Intérieur et membre de la phalange espagnole. Ce qui aurait vivement irrité Henri Barbet, celui-ci ayant été pressenti pour accompagner Doriot dans un nouveau voyage en Espagne nationale, aurait refusé de l'accompagner et mis en garde contre une politique dangereuse pour l'avenir du parti. Nonobstant ses plaintes, Doriot peut en juin prévenir ses collègues de la future parution d'un nouveau quotidien du parti en octobre 1939 sur les promesses de financement de l'ambassadeur d'Espagne en France, M. Lequerica. Alors, en octobre 1939, c'est au tour d'Henri Barbet de quitter la direction du PPF. Ainsi, et je termine, en s'immisçant dans les affaires du PPF, le général Franco a accéléré la transition du parti vers une droite autoritaire, traditionnaliste et cléricale, désagrégeant le compromis idéologique et sociologique de sa base militante. Le général Franco a donc participé à l'éclatement de la bulle que représentait le PPF dans la vie politique française. Paradoxalement, il a desservi le PPF en l'aidant, et par là même, il a rendu son investissement contre-productif, puisque le PPF, désormais aux effectifs restreints, n'est plus capable d'assumer sa mission de promotion de l'Espagne franquiste à l'opinion française. C'est un autre paradoxe que, à mesure que le PPF se défascise en se rapprochant de l'extrême droite traditionnelle française et par là du franquisme, il lui est le moins utile. Si la trajectoire du PPF devait être vue donc comme exemplaire, on en conclurait que les politiques d'influence, jugées à l'aune de conjonctures incertaines, peuvent avoir des conséquences imprévues. Elles peuvent d'une part ne pas porter, et le commanditaire n'en tire pas le bénéfice attendu, mais bien plus, elles peuvent aussi être contre-productives, comme on l'a vu ici, le commanditaire détruisant par son aide celui qui devait porter sa propagande. Le général Franco, comme le comte Ciano, ont sans doute surestimé les capacités propagandistes et politiques de Jacques Doriot, et lui ont donné sans rien demander en retour. Contrairement aux Allemands, qui lui demanderont tout, jusqu'à engager sa vie sur le front de l'Est, mais ne lui donneront rien. Merci.